Bonjour à tous, particulièrement à ceux que je n'ai pas salués avant le culte. Alors, nous avons lu tout à l'heure une lettre que l'apôtre Paul a adressée à un de ses amis qui s'appelle Philémon. Et la cause de cette petite lettre qu'il lui envoie, c'est un petit événement, un épisode qui s'est produit, des circonstances parfois de la vie comme ça. Et finalement, à partir de cet événement, eh bien, Philémon va apprendre plusieurs choses, va apprendre plusieurs leçons. Et nous, c'est pareil. Parfois, il y a des événements qui se produisent dans notre vie. Et le Seigneur, à partir de ces événements qui vont se produire, a souvent plusieurs petites leçons à nous apprendre. Et ce matin, nous allons, au travers de cette lettre que Philémon a reçue, relever en particulier quatre leçons qui viennent directement de ce qui s'est passé. Que s'était-il passé? Philémon était un chrétien plutôt riche, aisé. Il avait une très grande maison au point qu'il accueillait l'église chez lui, à Colosse. Et puis, il avait des serviteurs, des servantes, des esclaves, comme dans tout l'Empire romain à cette époque-là. Selon les maîtres, les esclaves étaient bien ou mal traités. Mais dans l'Empire romain, beaucoup des esclaves avaient une situation bien meilleure que certains hommes libres, certes libres, mais qui vivaient dans la misère et dans la pauvreté. Alors tout dépendait sur quel maître on tombait. Et tout nous laisse penser dans la description qui nous est faite de Philémon que c'était un bon maître. Mais voilà que son jeune esclave, qui s'appelle Onésime, qui est sans doute né dans la maison, soit n'appréciait pas sa condition, soit s'est dit, tiens, je vais profiter de ce que mon maître soit un chrétien, il accueille l'église dans sa maison, ouais, il va pas me chercher des histoires. Je vais me barrer de là, mais les poches pleines. Et Onésime a donc fui, ce qui dans la loi romaine était interdit. Il s'est échappé de chez son maître, et en plus, nous le voyons dans l'épître, en volant certainement une cagnotte à Philémon. Donc il est parti avec quelques bijoux, certainement, de l'argent, et il s'est taillé, peut-être en se disant, c'est un chrétien, il va pas peut-être pas réagir quand même comme certains pouvaient réagir à l'époque. Et je ne sais pas si ça vous est arrivé d'entendre cette expression, mais vous allez voir peut-être que pour Philémon, tout à l'heure, dans sa difficulté peut-être à pardonner, c'est sans doute parce que justement, il avait été bon pour sa maisonnée, pour ses serviteurs, ses servantes, ses esclaves. Et je ne sais pas si ça vous est arrivé d'entendre cette expression que je ne vais pas dire jusqu'à la fin puisqu'elle contient une grossièreté, mais je l'entends tout le temps. Trop bon, trop bon. Mais on remplace par un C. Et ça fait un gros mot. Combien de fois je ne l'ai pas entendu ça? Trop bon, trop. Et peut-être que Philémon se disait, ben c'est ça, ouais. Alors, traite-les bien, les esclaves, trop bon, trop. Et il se barre avec le fric. Eh ben, on va m'y reprendre, tiens. Et voilà. On ne sait pas dans quelles circonstances Onésime va se retrouver à Rome. certainement qu'il s'est fait choper, je ne sais pas trop. En tout cas, il rencontre l'apôtre Paul qui est emprisonné. Et en rencontrant l'apôtre Paul, certainement, vous savez, c'est comme toujours, le monde est petit, n'est-ce pas ? Vous allez à un endroit en vacances, et là, paf, c'est incroyable, vous tombez sur quelqu'un qui connaît votre belle-sœur, ou qui... incroyable. Et là, Onésime, il tombe sur l'apôtre Paul qui connaît Philémon, qui... ouh ! Et bien sûr, Paul va parler de l'évangile à Onésime, et Onésime va accepter l'évangile. Va donner sa vie à Jésus-Christ. Et il va passer par une vraie repentance. Quand Paul nous dit que Onésime, nous le voyons au verset 10, il dit « Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime. » C'est bien sûr un enfant spirituel. Nous voyons cette conversion au verset 15 et 16 pour que tu le retrouves pour l'éternité, c'est-à-dire au ciel. Onésime est sauvé maintenant. Tu vas le retrouver pour l'éternité. Non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé. Onésime a donné sa vie à Jésus-Christ. Il s'est repenti. Et à partir de cet événement, maintenant, Paul va vouloir Onésime. J'ai envie de dire, Paul veut que la boucle soit bouclée. Il faut qu'Onésime retourne chez son maître. Lui demande pardon d'avoir fugué, de l'avoir volé. Sans doute a-t-il déjà tout dépensé cet argent et est-il incapable de le restituer, de le rembourser. Nous allons le voir. Et puis, pour que la boucle soit bouclée, Paul veut que Philémon puisse accueillir Onésime en lui pardonnant. Alors, ce matin, à partir de cette histoire d'un esclave qui a fugué en emportant un magot et puis qui s'est converti et qui va retourner vers son maître chrétien. Nous allons voir dans cette lettre quatre leçons. La première va consister dans notre implication chrétienne. Et je pose la question, quelle est votre implication chrétienne ? Quelle est mon implication chrétienne ? Nous allons le voir. Ça, c'est la première chose. Et Paul va questionner Philémon sur son implication chrétienne. La deuxième chose, c'est quelle est mon attitude pour faire ce qui est juste de faire. Avec quelle attitude est-ce que je le fais ? Je sais que c'est ce qu'il faut faire, mais quelle attitude j'y mets ? Là, je suis un peu forcé. Ou bien, je vais le faire parce que ça va venir du cœur. Ça, c'est la deuxième question que nous allons nous poser. Troisième leçon que nous allons voir consiste sur un regard que Dieu nous invite à poser sur les circonstances de notre vie qui nous paraissent mauvaises. Les aléas de la vie, les épreuves, des choses qui nous arrivent et qui sur le coup nous font râler, qui sont pénibles, qui sont contrariantes. Comme pour Philémon, le fait que son esclave ait emporté la caisse, c'est contrariant. Dieu invite à poser un regard particulier sur ces événements de la vie. Nous allons voir lequel, ça sera la troisième leçon. Et puis enfin la quatrième leçon sur le pardon. Qu'est-ce que c'est que pardonner ? Alors, J'aimerais relire avec vous donc une première partie de cette lettre pour concernant notre implication chrétienne. Nous découvrons là une famille formidable. Je lis avec vous Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Aphia, à Archip, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous découvrons déjà là une famille dans la ville de Colosse qui s'implique dans la vie chrétienne. Et nous avons là le Père, Philémon, la mère, Aphia, et probablement leur fils, Archip. Et il y a une vraie famille qui a donné sa vie à Jésus-Christ et qui s'implique de manière efficace pour la cause de Christ. Vous relevez cette expression au verset 6, ça sera le verset clé de notre premier point. Je demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ. Voilà déjà une famille qui a ouvert sa maison à l'Église. Vous allez dire, ben, ils sont riches, c'est normal, ils ont une grande maison. Oui, mais moi j'ai remarqué que plus les gens ont une belle maison, moins vous en voyez la couleur. Vous êtes beaucoup plus souvent invité chez des gens humbles, qui ont un petit chez eux, pas très... Et puis, les gens qui ont des belles propriétés, ben vous les voyez d'extérieur. Hein. Mais c'est rare qu'on y rentre. Oui. Ils font des fêtes, ils invitent des amis du même standing qu'eux. Mais ouvrir à des gens qui n'ont pas notre standing ou qui ne sont pas forcément nos amis, comme ça, comme Philémon va le faire, c'est pas si naturel. Et nous voyons là quelqu'un qui a ouvert sa maison, qui a utilisé ses richesses et ses biens pour donner un toit à l'Église. Il accueille l'Église. Et jusqu'au 3e siècle, après Jésus, il n'existait pas de bâtiment spécifique pour que les chrétiens se rencontrent et fassent leur culte. Jusqu'au 3e siècle, les églises, c'était dans les maisons des gens. Et pour qu'on puisse se réunir, il fallait cette hospitalité, il fallait cette ouverture, cette implication. Et quand vous recevez quelques, parce que les églises étaient grandes, hein, quelques centaines de personnes, croyez-moi, il y a du ménage à faire. Certes, ils avaient des serviteurs, des servantes, mais enfin, ça fait bouger tout ça. Eh bien, nous voyons là une implication dans la vie chrétienne. Et nous pouvons poser cette question, est-ce que j'utilise les ressources que le Seigneur m'a données pour la cause de Christ? Est-ce que ma participation à la vie chrétienne, ma participation à la foi est efficace pour la cause de Christ? Voilà une manière matérielle de travailler pour Jésus, de travailler pour la cause du Seigneur Jésus. Mais ça ne s'arrête pas là. Voilà que ils ont élevé leur garçon, Archip, et qu'Archip, c'était le pasteur de Colosse. Nous le trouvons, Archip, cité à la fin de l'épître aux Colossiens, avec une exhortation de l'apôtre Paul qui dit « Dites à Archip, prends garde au ministère que tu as reçu afin de bien le remplir. » Nous savons qu'Archip était un serviteur de Dieu, il avait reçu un ministère pastoral. Et nous voyons comment cette famille accueille l'Église et comment Archip a un cœur de berger pour l'Église. Quelle est notre participation? Quelle est notre implication? Ça ne s'arrête pas là. Regardez Philémon, je continue la lecture, je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de ta foi que tu as au Seigneur Jésus, de ton amour pour tous les saints. On sait bien, on s'y retrouve. Mais ça ne s'arrête pas là. Il dit, je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Philémon, c'était quelqu'un qui s'impliquait, et on ne sait pas exactement de quelle manière, mais il a su tranquilliser le cœur des saints. Il s'est investi dans son Église. Spirituellement, matériellement d'ailleurs, à la toute fin de l'épître, Paul lui dit au verset 22, « En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. » Et voilà, il fallait en plus qu'il fournisse le logement à Paul. « Tiens, bon ben tu me prépareras, hein, tu connais toi, tu... » Bon, voilà, ben, tu assures ça. La logistique. Vous voyez comment Philémon est impliqué. Toute une famille impliquée. Alors moi je pose la question, c'est la rentrée des classes. Moi dans ma tête ça correspond aussi à la rentrée de l'église, hein, après la période estivale, il y a du va-et-vient, il n'y a plus personne d'ici, il y a beaucoup de monde d'ailleurs, et puis on reprend en septembre. Cette année, bon, je vous pose une question, est-ce que vous vous reconnaissez en disant, vous participez à la foi chrétienne? Oui ou non? Est-ce que vous participez à la foi? Vous êtes chrétien? Vous n'êtes pas chrétien? Je ne sais pas, je pose la question. Est-ce que vous croyez en Jésus? Vous participez donc à la foi en Jésus, oui? Et c'est pour ça que nous sommes là ce matin. Mais la prière, là, c'est que ce que je demande, c'est que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ. Efficace ou puissante. Et là, nous devons nous dire, ok, je suis chrétien, oui, bien sûr, je participe à la foi. Je crois comme lui, comme elle, comme, ben oui, on a ça en commun, on est des chrétiens, on est sauvés, on a accepté Jésus dans notre vie, et voilà, ben bien sûr, je participe à la foi. Mais Paul, là, la part de Dieu, il dit, oui, mais moi, je ne veux pas que ça s'arrête là. Je veux que ta participation à la foi, le fait que tu crois en Jésus, mais je veux que ce soit efficace pour la cause de Christ. Nous rentrons, là, septembre. Nous avons l'année en vue. Il va se passer plein de choses dans cette année. Comment est-ce que vous allez vous impliquer? Comment, puisque vous êtes chrétien et que vous participez à la foi en Jésus, comment est-ce que votre foi chrétienne, comment est-ce que vous allez décider qu'elle soit efficace pour la cause de Christ? Comment est-ce que vous allez travailler pour le Seigneur? Comment est-ce que vous allez être des compagnons d'œuvre pour la cause de Jésus? Ça peut être par des différents services matériels qui touchent l'Église, le bâtiment, son fonctionnement, la logistique, l'audiovisuel, le mensuel. Ça peut être dans l'implication auprès des moniteurs, monitrices pour les enfants. Ça peut être dans la musique, ça peut être dans le stand biblique qui a lieu sur le marché, faire équipe avec Jean-Denis, l'accompagner, distribuer des traités. Ça peut être dans un ministère de prière, ferme, régulier, on va combattre dans la prière. Demandez au Seigneur Là, j'ai énuméré quelques petites choses, mais il y en a tellement. Mais la vraie question, c'est, est-ce que je veux être simplement un spectateur dans l'Église, ou est-ce que je veux, comme Dieu me le demande, être acteur, me lever. Me lever pour que ma participation à la foi en Jésus-Christ, je suis chrétien, pour qu'elle devienne efficace pour la cause de Christ. Et c'est vraiment ce qu'il y a au cœur de Paul quand il écrit à Philémon. Pourtant, il écrit à quelqu'un de déjà très impliqué. Et nous. Alors attention, être efficace pour la cause de Christ, ça ne s'arrête pas au service qu'on peut rendre dans l'Église, différents ministères. Ici, ce qui est pointé du doigt, c'est le litige qu'il y a concernant Onésime. Et là, il dit à Philémon, écoute, il faut quelque chose qui soit efficace pour la cause de Christ, et ce quelque chose-là, c'est que la boucle soit bouclée entre ton esclave et toi. Il t'a volé, peut-être tu l'as encore un peu au travers de la gorge parce que trop bon, trop... Ben oui, mais... Et le pardon. Et le pardon, Philémon. Tu accueilles l'Église. Ton fils est le pasteur dans l'Église. Toute l'Église est au courant que Onésime est parti. Toute l'Église. C'est d'ailleurs pour ça que la lettre ne s'adresse pas seulement à Philémon, mais qu'elle s'adresse aussi à l'Église qui est dans sa maison. Tout le monde est au courant. Il dit, tu sais, pour être efficace pour la cause de Christ, il s'agit d'avoir un bon témoignage. C'est sûr que si je commence à faire des esclandres dans mon voisinage parce que mon voisin s'est garé un petit peu à cheval sur ceci ou sur cela, il a dépassé le petit trait de 5 cm et que je suis là. Ah ben c'est sûr que ça n'est pas efficace pour la cause de Christ parce que je suis un mauvais témoignage par mon emportement, ma colère, mes esclandres. Dans mon travail, lorsque je réagis mal, pas comme le Seigneur le veut, ah ben les gens savent que je suis chrétien, mais ils voient me comporter comment je me comporte et disent, oh bon, les chrétiens c'est comme tout le monde si c'est ça les chrétiens. Et nous discréditons la cause de Christ. Et ici, la question qui concerne Philémon, Paul est en train de lui dire, attention, que la cause de Christ ne soit pas discréditée à cause d'une amertume qui va rester là et qui fait que tu ne vas pas être capable d'accueillir Onésime avec amour et avec pardon. Regarde, la ville de Colosse a les yeux braqués sur vous. Tu veux faire avancer la cause de Christ? Agis comme Christ. Tu veux faire avancer la cause de Christ? Étonne les gens par des réactions. Ils disent, mais c'est pas possible qu'ils réagissent comme ça. Comment il fait pour pardonner? À l'époque, un esclave qui avait fugué, qui vous avait piqué le pognon et qui était pas capable, qui l'avait dépensé, croyez-moi, il n'était pas réintégré dans ses fonctions. Mais là, Paul dit oui, mais nous, on est des chrétiens. Et Christ nous a pardonné et nous demande de pardonner. Alors, il va falloir que dans tes réactions, tu sois efficace pour la cause de Christ. Philémon était efficace matériellement dans les services, etc. Il était super impliqué dans la vie de l'Église. Mais là, il y a une chose qui est plutôt d'ordre moral et dit attention, dans ton témoignage moral, sois efficace pour la cause de Christ. Ne travaille pas contre par une mauvaise attitude. Et malheureusement, nous, dans nos attitudes, souvent, nous discréditons la cause de Christ. Seigneur nous demande, nous dit cette année, comment est-ce que tu vas être efficace pour la cause de Christ ? Peut-être j'ai et vous avez des choses à régler, à faire du ménage, qui sont des mauvais témoignages, qui en fait discréditent notre nom de chrétien. Les gens nous voient, ils disent, oh, il est chrétien, t'as vu comment il parle, t'as vu comment il réagit, t'as vu comment il se comporte. Ouais. Faire du ménage. Il va falloir veiller. Il va falloir veiller. Il y a des événements comme ce qui s'est passé entre Philémon et Onésime. Voilà, ça surgit, c'est là, c'est sur le feu. Et que, quand c'est sur le feu, les gens nous regardent. Est-ce qu'on va discréditer la foi dans cet événement qui est en train de se produire ? Ou est-ce qu'on va honorer le Seigneur ? Et est-ce que par nos décisions, notre cœur, nous allons donner un bon témoignage qui glorifie Dieu et nous allons être efficaces pour la cause de Christ. Parce que les gens vont dire, je ne m'attendais pas à ce qu'il réagisse comme ça. Moi, à sa place, je n'aurais pas réagi comme ça. Il a quelque chose que moi, je n'ai pas. Il y a quelque chose qui gouverne sa vie. S'il y avait plus de gens comme ça, le monde tournerait mieux. Nous sommes dans le contexte de l'esclavagisme. Ce matin, en venant à l'église, j'ai vu une pancarte « Esclave aujourd'hui en France ». C'était sur la route de Jacques. Là. Oui, c'est toujours une question d'actualité. Hein. Mais le chrétien va montrer une autre voie. Et il est porteur. Il est vraiment porteur de la pensée de Dieu. Pour notre monde, pour notre société, faire la différence avec un cœur régénéré, lavé, purifié. Ça, c'était la première chose. Et vraiment, j'insiste, ne partons pas du culte ce dimanche sans vraiment nous poser cette question. Comment ? De quelle manière ? Et demander au Seigneur, dire, Seigneur, de quelle manière cette année est-ce que je peux rendre ma participation à la foi chrétienne ? Comment est-ce que je peux la rendre efficace pour ta cause ? Cette année, je ne veux pas rester inefficace pour la cause de Christ, ou même contre-productif. Cette année, je veux être puissant pour la cause de Christ. Est-ce que c'est votre prière ce matin ? Amen. Alors, impliquons-nous. La deuxième chose, c'est l'attitude avec laquelle nous allons faire ce qui est juste. Là, Paul est en train de dire à Philémon, écoute, le Seigneur nous a aimés, le Seigneur nous a pardonnés, le Seigneur nous a accueillis et il nous invite à faire pareil. Hein. Onésime, t'as fait du tort, mais il est devenu un frère. Il revient avec repentance. Le Seigneur te demande de l'accueillir. Alors, c'est ce qui est juste d'être fait. Mais nous pouvons le faire avec deux attitudes différentes. Et nous le voyons au verset 8, 9, puis 14. Il dit, c'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière. Et au verset 14, toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais il y a des tas de situations où ce qui est convenable et ce qui est juste de faire, nous allons le faire parce qu'au fond, on n'a pas trop le choix. On y est contraint, on y est forcé. Mais il n'y a pas un déclic du cœur pour le faire. Je vous donne un exemple tout simple. de ces deux attitudes. Dans une famille comme la nôtre, eh bien très souvent, on va dire aux enfants « Tiens, ma chérie, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, aller étendre le linge ?» Alors nous, c'est arrivé plusieurs fois que nos enfants nous répondent « Pourquoi tu me demandes, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, de toute façon, si ça ne me plaît pas, je vais quand même devoir le faire. » Ben oui. Ben alors, dans ce cas, dis-moi, va accrocher le linge, plutôt que dis, est-ce que, s'il te plaît, tu pourrais accrocher le linge comme si j'avais le choix. Et là, vous voyez, effectivement, il y a l'autorité parentale, comme Paul, qui en tant qu'apôtre, et dans le contexte de l'Église, Philémon, il est un peu coincé quelque part. Paul lui dit, accueille Onésime, pardonne-lui, réintègre-le. Philémon, il est un peu coincé. Et Paul dit, je pourrais te le prescrire avec autorité, comme un parent peut dire, va accrocher le linge. Voilà, tu vas accrocher le linge. Mais il dit, mais c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière. Et en fait, Paul est en train de dire à Philémon, tu vois, en fait, dans cette situation avec Onésime, il y a deux manières d'agir. Tu peux le faire parce que tu t'y sens obligé, parce que tu t'y sens contraint, parce que tu n'as pas vraiment le choix, ou parce que, bon, il pourrait dire non, mais après il va se mettre Paul à dos, l'Église à dos, les gens de l'Église qui le regardent, enfin, hein, il y a une pression qui fait que de toute façon, il ne peut pas faire trop autrement. Et Paul, il dit, mais moi, je veux pas que tu le vives par contrainte, que tu fasses ce qui est convenable parce qu'au fond, tu n'as pas trop le choix, que tu t'y sens forcé. Il dit de préférence, ça serait bien que ça sorte du cœur. Un petit peu comme les parents, quand ils disent à leur enfant, s'il te plaît ma chérie, est-ce que tu pourrais aller crocher le linge pour maman? Ben, les parents, de préférence, ils aimeraient que, en fait, l'enfant dise, ah ben ouais, c'est vrai, maman elle est fatiguée, ou tiens, ça va lui rendre service, et que ça vienne du cœur. Ben ouais, je vais aller accrocher le linge, c'est pas que c'est l'extase d'accrocher le linge, c'est que je le fais par amour. C'est de préférence au nom de l'amour, ça va venir du cœur. Et on peut accrocher le linge au nom de l'amour, ou on peut accrocher le linge au nom de la contrainte. De toute façon, l'enfant accroche le linge. De toute façon. À moins de tenir tête, mais après, on se met dans des positions compliquées, les parents qui coupent le téléphone portable, Internet, etc. Et ça devient un bras de fer où le jeune, il dit, c'est bon, je vais aller l'accrocher son linge. Et Philémon pouvait dire, c'est bon, je vais l'accueillir, Onésime. Mais Paul, il dit, si tu le fais dans cette attitude de cœur-là, on n'aura pas vraiment tout gagné. On aura perdu beaucoup de choses. C'est vraiment préférable que dans ton cœur, il y ait ce verrou qui s'ouvre et que tu le fasses au nom de l'amour. C'est vrai pour une famille, hein. C'est mieux quand l'enfant va aller accrocher son linge dans un esprit de service et d'amour familial, plutôt que par contrainte. C'est mieux pour tout le monde, en fait. C'est mieux pour les parents, parce que quand l'autre s'est forcé, bien sûr, il y a le soupir qui va avec. Tout, enfin bon. Vous voyez l'ambiance. Bon, voilà. Et puis le jeune, dans son cœur, il se sent comment? Un peu amer, hein? Ça contre cœur. Et voilà toute la question ici. Philémon, est-ce que tu vas le faire à contre cœur? Parce qu'au fond, tu te sens bien obligé, que tu n'as pas vraiment le choix. Tu vas le faire à contre. Tu vas le faire à contre cœur. Paul lui dit franchement, laisse le Saint-Esprit ouvrir le verrou de ton cœur pour faire ce qui est convenable en plus. C'est ce qui est convenable, mais fais-le ce qui est convenable avec le cœur et pas à contre-cœur. Ça nous arrive des tas de fois à nous où il y a des choses, on va les faire, on sait que c'est ce qu'il faut faire, et puis voilà. Mais on va les faire en fait parce qu'on se sent un peu coincé, on n'a pas trop le choix. Ben on va les faire. Mais plutôt à contre-cœur. Et le Seigneur, à travers Philémon, il veut nous inviter à le faire en y mettant le cœur. Et il nous dit, tu sais, c'est mieux. Imaginons simplement que Philémon l'effet à contre-cœur. Ok, il serre un peu les dents, il s'assoit sur l'argent qu'il a perdu, et puis il accueille Onésime, l'ambiance est tendue, les relations ne sont pas... Elles sont polies parce qu'il est bien obligé. Il a toujours un peu d'amertume. Il en veut un peu à Paul qui lui a un peu forcé la main. Hein? C'est pas la joie. Hein? Pas terrible, hein? L'ambiance. Et il y a un poids ici. Par contre, s'il le fait avec le cœur, alors il y a des choses magnifiques qui se mettent en place. S'il le fait avec le cœur, comme dit le verset 15 et 16, afin que tu le retrouves pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement et de toi à plus forte raison. Il dit, écoute, si tu le fais par amour, si tu acceptes de faire les choses avec le cœur plutôt qu'à contre-cœur, il va y avoir des bénédictions pour ton âme qui vont être là. Plutôt qu'un sentiment de contrainte et forcé, tu vas avoir la joie. Alors réfléchissons. À quelle est notre attitude? Est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous décidons? Et c'est une décision. Hein, parce qu'au départ, c'est toujours à contre-cœur. Vous savez, de manière naturelle, c'est le contre-cœur qui est là. En général, c'est pas le cœur. Le premier qui se présente à la porte, en général, c'est le contre-cœur. Ok, c'est le contre-cœur. Maintenant, on dit au Seigneur, Seigneur, non. Je veux considérer le faire par amour. Par amour. Je ne veux pas le faire parce qu'au fond, je n'ai pas trop de choix, j'y suis obligé. Je veux voir l'intérêt de l'autre. Je veux le faire pour l'autre, par amour. Nous avançons un petit peu parce qu'on tarde. J'ai oublié de mentionner le petit jeu de mots qui est fait sur Onésime. Regardez Onésime au verset 10 et 11. Il dit, je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile à toi et à moi. On dit, tiens, d'où ça sort ce verset? Parce que Onésime, dans le grec, ça veut dire utile. Portez mal son nom, ce type. C'était un esclave qui servait à rien. Il avait dû être dans la maison, trop chouchouté, il voulait rien faire. À la fin, il se barre avec le pognon. Et pourtant, il s'appelle Utile. C'est son nom, Utile. Et Paul dit, Onésime, il était inutile, c'est vrai. Mais maintenant qu'il a rencontré Jésus-Christ, il est utile. Tout à l'heure, je vous ai demandé, vous participez à la foi en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et il y avait cette exhortation à ce que notre vie chrétienne devienne efficace pour la cause de Christ. Mais vous dites, moi je suis pas capable. Moi j'ai pas la stature. Je ne peux pas, je suis pas en mesure que d'être efficace pour la cause de Christ. Regardez Onésime. Quand le Seigneur rentre dans une vie, alors qu'autrefois on était inutile, on devient alors utile. Et c'est le Seigneur qui nous rend capable et qui nous rend utile et utilisable. Amen. Alors, est-ce que vous êtes capable que votre participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ? Oui. Parce que le Seigneur, oui, autrefois nous étions morts dans nos péchés, ennemis de Dieu, et nous étions inutiles pour la cause de Christ. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous a lavé de nos péchés, cet esprit est venu habiter en nous, Christ nous revêt, il nous donne son esprit, et il fait de nous des utiles. Amen. Alors, continuons sur une réflexion des épreuves qui peuvent nous arriver, des événements fâcheux, contrariants. Là, Philémon, il avait eu un événement contrariant. Et là, il y a une leçon que Paul lui transmet en lui disant, mais écoute, peut-être tu peux porter maintenant un autre regard sur les événements fâcheux qui te sont arrivés. Nous le voyons au verset 15. Il dit, peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité. C'est vrai que c'était fâcheux que Onésime fiche le camp en volant. Ça a certainement mis Philémon dans une situation compliquée, en tout cas contrariante. On dit, moi, je vois pas pourquoi ça m'arrive, etc., etc. Et puis Paul dit, mais tu sais, finalement, regarde maintenant. Il est allé jusqu'à Rome. Je l'ai rencontré par hasard avec Dieu qui a un plan. Et maintenant il est venu à Jésus-Christ. Maintenant il est sauvé. Combien vaut une âme? Et Paul il dit, tu vois, peut-être que tout ce qui est arrivé là, c'est vrai, il a été séparé de toi pour un temps, il s'est passé ceci, cela, c'était fâcheux, c'était contrariant, mais regarde maintenant, tu peux le retrouver comme un frère pour l'éternité. Paul dira en Romains, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a des événements, nous ne comprenons pas pourquoi ils arrivent, et ils sont contrariants, ils sont fâcheux, ils sont tristes. Mais le Seigneur nous invite à porter un regard en disant, oui, mais peut-être que cet événement qui te contrarie aujourd'hui, qui t'attriste, peut-être tu ne le sais pas, et peut-être qu'il va porter des fruits pour l'éternité. Tu ne sais pas ce qui va se passer, ce qui va se déclencher, ce que ça va impliquer. Et nous le voyons à plusieurs reprises dans la Bible. Par exemple avec l'histoire de Joseph. Ses frères l'ont vendu, il est arrivé en Égypte, etc., etc. Mais à la fin, Joseph leur dit, ne vous attristez pas de tout ça, c'est Dieu qui l'a permis, qui a permis que vous me vendiez, qui a permis tout cet enchaînement de choses pour que finalement j'arrive au pouvoir en Égypte et que je puisse vous sauver la vie dans cette famine. Il y avait la famine et il les a fait venir en Égypte, etc. Et Joseph dira, vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Est-ce que Dieu peut changer des choses qui nous paraissent mal en bien? Oui. Amen. Là, c'était une circonstance mauvaise, voilà, Philémon, ben, c'était fâcheux. Eh bien, le Seigneur l'a changé en meilleur. Parce qu'il avait perdu un esclave, mais il a retrouvé un frère à la fin de l'histoire. Alors, vivons nos circonstances fâcheuses, accrochées, agrippées avec foi sur le fait que Dieu a un plan et que ce qu'il permet n'est pas sans signification et c'est porteur de sens. Dans la main de Dieu, ces circonstances ont toujours un sens. Et à travers de ça, de l'histoire d'Onésime, Dieu va faire grandir l'église de Colosse, va fortifier, puisque la grande leçon qui est au cœur de cette épître, c'est le pardon. Au travers de cette circonstance, il va y avoir une leçon, j'ai envie de, comment on dit une leçon vivante, une leçon de chose, une leçon vivante, enfin, en réel, de qu'est-ce que c'est que le pardon. Et toute l'église va vivre ce pardon quand Onésime va revenir, qui va être accueilli, qui va être intégré, qui va joindre l'église, qui va travailler pour le Seigneur. Toute l'église va voir qu'est-ce que c'est que la dimension du pardon dans une société romaine où normalement l'esclave, on pouvait le mettre à mort là. Quelle belle chose pour l'église de Colosse. On est parti de quelque chose de contrariant. Mais le Seigneur va utiliser cet événement pour faire grandir, pour sauver une âme, pour faire grandir Philémon dans sa foi et pour faire grandir l'Église avec cet exemple du pardon. C'est formidable. Alors faisons confiance à Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous terminons avec la question du pardon. Paul demande à Philémon d'accueillir Onésime. Et il lui dit, si donc, verset 17, tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je paierai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. Le pardon. Alors, le pardon, c'est une notion qui intervient lorsqu'il y a eu un péché, c'est-à-dire une offense. Un péché de quelqu'un contre quelqu'un d'autre. D'accord ? Ça, c'est l'offense. Je peux être celui, l'offenseur. Je parle mal à quelqu'un. Je lui parle comme un chien. Il se sent blessé. Il y a l'offenseur et il y a l'offensé. L'offense, ça met une barrière. Le péché, ça met une barrière. Et Dieu nous dit, ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et vous et l'empêchent de vous écouter. Ce sont vos péchés qui mettent une séparation. Dès qu'il y a une offense, on fait quelque chose de mal contre quelqu'un ou quelque chose nous fait quelque chose de mal, ou quelqu'un nous fait quelque chose de mal, il y a une barrière dans la relation qui est mise. Pareil que l'homme avec Dieu, lorsque nous péchons contre Dieu, notre péché met une barrière relationnelle. Il y a un problème de relation. La relation n'est plus la même. Et c'est pour ça qu'il dit, vous étiez ennemis de Dieu par vos pensées et vos mauvaises œuvres. Ennemis. Voilà. Vous avez mis la barrière, vos péchés, la relation, elle est fracturée, elle est abîmée, il y a une barrière. Alors, le pardon. Vous avez cette image d'une barrière ou d'un mur ou d'un portail, ce que vous voulez. Eh bien, de chaque côté, on va dire qu'il y a un verrou. Vous savez, c'est un peu comme dans les films, des fois, on voit les hôtels, et dans les chambres d'hôtel, il y a des portes qui communiquent entre elles. Vous avez déjà vu ça? Ah, dans les films, moi, j'ai jamais vu, mais... Enfin... Bon, mais de chaque côté, il y a un verrou. Parce qu'on peut vouloir faire communiquer les deux pièces, ou on peut vouloir les garder chacun de son côté, etc. Donc, la porte ne va s'ouvrir que si le verrou des deux côtés est ouvert. On est d'accord avec ça? Vous voyez l'image? Il y a un obstacle, il y a une barrière, comme mon micro, voilà. De ce côté, un verrou. De l'autre côté, un verrou. Ici, l'offenseur. Ici, l'offensé. Chacun, de part et d'autre, du mur de l'offense. Avec une porte. Mais avec deux verrous. Et ça gêne la relation, n'est-ce pas? Nous avons ici Philémon, qui s'est fait voler, qu'on a pris pour une andouille. Trop bon. Chrétien. Et puis nous avons ici Onésime, un réactionnaire qui milite pour l'abolition de l'esclavage. Bon. Ouais. Et qui trouve justifié de piquer quoi. Voilà. Chacun avec son truc. Et au milieu, il y a le vol. Il y a le litige. Alors la question, c'est le verrou là. Pour rétablir la relation entre l'offenseur et l'offensé. Du côté de Onésime, est-ce qu'il a ouvert le verrou de sa porte? Je vous pose la question. Oui. Onésime a ouvert son côté de verrou. Comment? Par la repentance. C'est-à-dire, il est celui qui a causé le tort, il est celui qui a offensé, et pour pouvoir ouvrir le verrou qui nous concerne, lorsque j'ai mal parlé à quelqu'un, il va falloir que je demande pardon. C'est-à-dire que quand il y a toujours l'offenseur et l'offensé, l'offensé, oh, des fois ça va dans les deux sens, c'est plus compliqué, il y a double porte et double verrou, mais c'est pas grave. En tout cas, dans ce qu'on a tort, notre verrou, qui nous appartient, c'est de demander pardon. C'est de dire, j'ai eu tort, je t'ai fait mal, j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, c'est un péché, je te demande pardon. Et Onésime, qui n'était pas du tout un chrétien quand il est parti de chez son maître, c'était un païen. Mais à Rome, il a ouvert son cœur à Jésus-Christ. Et croyez-moi, dans la conception de l'apôtre Paul, c'est pas juste formel. Hein. C'est une vraie conversion qui passe par une authentique repentance. C'est-à-dire, c'est se voir comme Dieu nous voit, comme un pécheur, au-delà des choses sociales. Oui, c'est pas juste, je suis un esclave, lui, moi je suis né comme ça, pourquoi? À un moment, Dieu il va parler au cœur d'Onésime en disant, arrête tes salades, t'es coupable et t'es pécheur. Était condamné à mes yeux. Et Onésime va passer par la repentance, cette repentance où on se voit mauvais, où on dit oui, c'est vrai, je suis pas quelqu'un de bien, ouais, j'ai mal agi. Et on est triste de cela. On dit, oh, j'aurais pas dû. Oui, je veux demander pardon à Dieu pour cela. Et Onésime passe donc par une conversion et par une repentance et par un retour sur lui-même. Et évidemment, concernant Philémon et concernant toute cette histoire, Onésime a ouvert le verrou, c'est-à-dire qu'il est dans la demande de pardon. Donc dans notre histoire, il manque le verrou du côté de Philémon. Le verrou du côté d'Onésime, il est ouvert. Il est dans la repentance, il est dans la demande de pardon. Il est dans le retour sur lui-même, en disant « j'ai eu tort ». Le problème, c'est que maintenant, il reste Philémon. Pouvoir pardonner. Accepter que l'autre nous a causé du tort et le mettre sur le compte de quelqu'un d'autre. Paul dit, ben, mets-le sur mon compte. Et c'est une image de comment nous mettons nos péchés sur le compte de Jésus-Christ. Comment est-ce que Dieu nous pardonne ? Est-ce que c'est parce qu'on est capable de rembourser la dette de nos péchés ? Non. On ne peut pas rembourser le tort qu'on a causé. Eh bien, c'est Jésus qui a payé pour nous. Il est mort sur la croix. Il s'est substitué à nous. Notre dette, la réparation, elle est sur son compte. Et Paul invite Onésime à faire la même chose en disant, il le dit ailleurs, il dit, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. C'est aussi cette histoire des débiteurs. Celui qui avait une grande dette, incapable de payer, et son maître dit, bon ben allez, j'efface ton ardoise. Puis le gars, il ressort tout content, et puis il trouve un collègue qui lui devait quelques euros. Il l'attrape, il le saisit à la gorge, il dit « Eh, tu vas me les payer quand, mes euros ?» et tout ça. On vient de lui passer l'éponge sur sa dette, à lui. Et puis là, il est en train de maltraiter l'autre, parce que par contre, le pognon qu'on lui doit, on lui doit, quoi. Il accepte volontiers qu'on lui efface sa dette, mais lui, il n'efface pas celle des autres. Et donc, c'est pour ça que Jésus dit, c'est pareil, vous ne serez pas pardonné si vous ne pardonnez pas vous-même de tout votre cœur. Il y a un moment, le chrétien, c'est celui qui est abasourdi du pardon qu'il reçoit de ses péchés et qui ne peut pas faire autrement que de pardonner aux autres. Le Seigneur m'a pardonné ma multitude de péchés. Il dit, mais non, toi tu vas aller pardonner les petites dettes, les petites offenses, les offenses que les autres te font. Tu vas ouvrir ton verrou. Parce que Jésus aussi a payé pour eux. Alors, Philémon doit ouvrir son côté de verrou en disant, bien, je digère. Christ a payé pour ça. Il a payé pour moi. Eh bien, j'ouvre la porte. Et le deuxième verrou là, Philémon va l'ouvrir, et donc, ouvert des deux côtés, il peut y avoir de nouveau une relation. Parfois, on se dit, est-ce qu'après une offense, quand les deux verrous sont ouverts de chaque côté, est-ce qu'on peut avoir la même relation qu'avant ? Ça ne sera jamais la même. Par contre, quand il y a vraiment Christ qui est au milieu de ça, la relation ne sera pas la même, mais elle sera meilleure et plus profonde. Qu'est-ce qui se passe ici ? Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps afin que tu le retrouves pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave. Et il y a ça d'extraordinaire quand le vrai pardon biblique est vécu, c'est que malgré l'offense, malgré les blessures, il peut y avoir une relation différente, mais plus profonde, qui est créée. Évidemment, elle est plus profonde pourquoi entre Onésime et Philémon ? Mais parce qu'ils ont cette histoire commune. Et il y a le pardon, et il y a la repentance. Ils ont vécu quelque chose de fort ensemble. Vous ne croyez pas qu'ils ont vécu quelque chose de fort ? D'abord, les sentiments négatifs de l'un contre l'autre. Et puis ensuite, le pardon et dire non, ces sentiments négatifs, c'est fini. En Jésus-Christ, je les lui donne. Et j'accueille et je vais vivre l'amour. Il y a quelque chose de très fort qui s'est dit entre eux. Et c'est ça qui change leur relation. Je termine simplement. On m'a posé la question cet été. Quand c'est l'offenseur qui n'ouvre pas son verrou, c'est-à-dire quand quelqu'un ne nous demande pas pardon, est-ce qu'on peut pardonner quand même ? Oui, on peut ouvrir notre côté de verrou. Notre côté de verrou, on peut laisser tomber l'amertume, on peut laisser tomber la colère en disant « Seigneur, ma colère contre l'offense, contre ce qui est injuste. Je te la donne, c'est toi qui es le juste juge. On peut, on ouvre notre côté de verrou. Mais il est vrai que l'autre, de l'autre côté, son verrou à lui, c'est la demande de pardon, c'est la repentance. Et si la personne ne passe pas par la repentance, est-ce qu'il y a une relation qui peut reprendre forte, une vraie relation, j'entends, hein, une relation qui a réglé la question de l'offense? Non. Non. Et nous n'avons pas à nous culpabiliser de ça. Il y a des gens qui ont vécu des choses terribles et la personne n'a jamais rien reconnu. N'a jamais venu demander pardon en quoi que ce soit. Et il est évident que la relation, la porte demeure fermée. Non pas à cause de celui qui a été offensé, lui il a ouvert son verrou, mais à cause de l'autre côté de la porte. Et c'est pareil entre Dieu et les hommes. Est-ce que Dieu veut pardonner aux gens? Oui. Dieu veut pardonner à tout le monde, oui ou non? Est-ce que Dieu a ouvert son verrou de son côté? Pourtant il dit, ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre moi et vous. Mais j'ouvre le verrou, Jésus-Christ a payé pour vous, moi j'ouvre le verrou. Alors est-ce que tout le monde est sauvé? Ben non. Pourquoi? Parce que pour être pardonné, pour vivre la relation, hein, c'est la reprise d'une relation, ben il faut que celui qui a péché ouvre son verrou à lui, et son verrou c'est de se repentir. Ça c'est une petite remarque. Alors, nous sommes invités à pardonner. Réfléchissons, est-ce qu'il y a des gens à qui je n'ai pas pardonné? Peut-être ils sont venus me demander pardon, mais j'ai toujours là en travers de la gorge. Voilà, moi de mon côté de verrou, la porte est toujours fermée, quoi. Voilà. La chambre, la porte de communication entre les deux chambres, je ne l'ai pas réouverte. Le Seigneur nous dit, il va falloir l'ouvrir pour que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ. Parce qu'un chrétien, il reflète Jésus-Christ en pardonnant. Est-ce qu'il y a des gens à qui je n'ai pas pardonné? Qu'il m'ait demandé pardon, ou qu'il ne m'ait pas demandé pardon. Il va falloir passer par là. Peut-être, on est plutôt comme Onésime, c'est nous qui avons causé du tort. Est-ce qu'il y a des gens à qui je n'ai pas demandé pardon? Et je devrais y aller. Onésime, il va revenir. Il va aller trouver Philémon. Alors ce matin, premièrement, c'est la rentrée cette année. Qu'allons-nous faire de notre vie chrétienne? Comment allons-nous être efficaces pour la cause de Christ? Deuxièmement, avec quelle attitude? Est-ce que je fais les choses qui sont, oui, certes justes, mais parce que je n'ai pas trop le choix, je suis plus ou moins obligé? Ou est-ce que je vais dire non, Seigneur, je vais le faire non pas contre cœur, mais je vais le faire à partir du cœur, de l'amour? Troisièmement, le regard sur les circonstances contrariante, fâcheuse de la vie. Le Seigneur a un plan. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le Seigneur va s'en servir. Il va retourner, j'ai envie de dire, la situation pour en tirer du bien. Et enfin, la question du pardon. Nous avons été pardonnés en Jésus-Christ, alors nous devons nous pardonner les uns les autres. Prions. Seigneur, merci pour cette lettre. C'est cet événement qui a appris à Philémon et à tous ceux qui l'entouraient, son épouse, son fils, et puis toute l'église chez eux. Cet événement avec Onésime qui s'est produit et qui finalement a été une leçon, l'occasion pour eux d'apprendre tout un tas de choses spirituelles. Seigneur, nous aussi, nous avons des événements dans notre vie qui se produisent. Aide-nous à saisir, à voir les leçons que tu veux nous apprendre au travers de ces événements. Merci parce que tu nous enseignes pour notre bien. Tu veux nous faire grandir, tu veux nous faire croître. Que nous puissions, Seigneur, nous mettre devant toi. Si nous n'avons pas pardonné à certaines personnes, réouvert le verrou de la communication. si nous n'avons pas demandé pardon, au contraire. Et Seigneur, que nous puissions faire les choses non pas à contre-cœur, mais par amour pour les autres. Et enfin, Seigneur, nous nous présentons devant toi en voulant vraiment te dire, Seigneur, cette année, je veux que le fait que je sois chrétien ne soit pas passif, mais soit efficace pour la cause de Jésus. Et c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen.